Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02% der abgegebenen Stimmen.
239.600 voix pour le oui, 123.329 pour le non, ce qui nous donne une majorité en faveur du oui à 66,06%. C'était dimanche dernier devant des dizaines de journalistes de toute l'Allemagne et de l'Europe. Souvent en direct sur leurs médias respectifs, Dietmar Nitan, le chef de la commission du mandat et de dépouillement du Parti social-démocrate allemand, annonçait le oui. Oui des membres de son parti pour la Grande Coalition. Fin de la crise politique sans précédent dans le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jamais les partis n'auront mis aussi longtemps pour former un gouvernement. Alors à quoi s'attendre maintenant pour l'Allemagne, pour l'Afrique, pour l'Europe et pour tous en termes de relations entre ces acteurs? On en parle dans un instant avec notre invité, chercheur, enseignant, Hans Stark sera avec nous. Et puis juste après ce grand entretien, Vue d'Allemagne vous emmène aussi en Israël. Grand reportage aux côtés de certains des 40 000 Érythréens et Soudanais que le gouvernement veut expulser. Entre peur de l'avenir et résignation à quitter le pays.
Il faut qu'on retourne en Érythrée et qu'on fasse tomber le régime actuel.
Au micro, Hugo Flotatalon, Guten Tag, Willkommen. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Vue d'Allemagne. Schrei nach Liebe, chanson politique des années 90 du groupe allemand berlinois Die Ärzte. Chanson politique parce qu'on débute cette émission avec le nouveau gouvernement allemand. Sauf tremblement de terre politique inattendu, on sait maintenant qu'Angela Merkel sera élue pour un quatrième mandat le 14 mars prochain au Parlement par les députés. C'est comme ça que ça se passe ici. Après les élections et 171 jours de négociations politiques, son camp, les partis CDU et CSU ainsi que le Parti social-démocrate en face se sont donc mis d'accord. Et les membres du Parti social-démocrate, le SPD, viennent donc d'approuver cette alliance, la GroKo, comme grande coalition. Un nouveau gouvernement verra donc le jour avant la fin du mois. Alors maintenant, à quoi s'attendre en termes de politique pour les années à venir et notamment en termes de politique étrangère? On tente de répondre à ces questions aujourd'hui avec Hans Stark. Il est chercheur, spécialiste de l'Allemagne, professeur de civilisation allemande et secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Et pour Vue d'Allemagne, il répond d'abord à une question simple et complexe à la fois. Faut-il s'attendre à des grands changements dans la politique étrangère allemande dans les années à venir?
Alors, je ne crois pas qu'il y aura des changements dans la mesure où c'est le SPD qui va occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Le SPD est justement un parti qui, par excellence, préconise des solutions civiles. C'est un parti plutôt dans une logique antimilitariste et donc dans une logique de tradition de puissance civile. Je ne vois pas comment l'Allemagne pourrait changer de cap en matière de politique étrangère en ayant un ministre social-démocrate aux affaires étrangères.
Ce qui peut peut-être varier, c'est la politique migratoire. On a vu que c'est une question qui avait posé beaucoup de soucis dans les négociations actuelles. On parle de politique migratoire réaliste dans le contrat de coalition qui a été signé. À quoi on peut s'attendre en matière de politique migratoire dans les prochaines années, selon vous?
Alors, je pense que d'abord, la politique très généreuse qu'elle avait menée entre 2015 et 2017 a été fortement critiquée par ses partenaires, à commencer par la France et les États-Unis. Donc les alliés de l'Allemagne n'ont pas du tout apprécié cette politique d'ouverture des frontières. Certains pensent même que la politique migratoire allemande a été la goutte qui a fait déborder le vase en Grande-Bretagne et qui a fait balancer le référendum vers le Brexit. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de plus grande fermeté, il est vrai, mais là encore, il faut relativiser. L'accord de coalition prévoit quand même l'accueil chaque année d'environ 200 000 réfugiés. Ce n'est pas négligeable, 200 000. Et surtout, c'est le solde qui va compter, non pas le chiffre absolu des personnes qui arrivent. Solde, ça veut dire que si, par exemple, il y a 100 000 personnes qui partent, pour arriver à 200 000, on peut accepter 300 000. Et dans la mesure où il y a beaucoup de départs, et ça c'est l'autre facette de la politique de fermeté, c'est-à-dire on va traiter les dossiers beaucoup plus rapidement et on va sans doute ne pas accorder le statut d'asile à des personnes qui ne sont pas des réfugiés politiques, qui ne risquent pas leur vie s'ils retournent dans leur pays d'origine. On va sans doute assurer un suivi plus rapide des dossiers, mettre l'accent davantage sur le retour des personnes à qui on n'a pas accordé le statut de demandeur d'asile. Mais en revanche, on continuera à en prendre des réfugiés, mais dans une proportion qui sera acceptée par les partenaires et aussi par les citoyens allemands qui ne voulaient pas non plus que chaque année 1 million de personnes arrivent.
L'Allemagne, concernant l'Afrique, cette fois, a adopté vous parlez de stratégie pour l'Afrique. Ça veut dire qu'on s'ouvre plus à ce continent africain aujourd'hui ?
Oui. Alors l'Afrique a été la grande absente pendant des années, voire des décennies, de la politique étrangère de l'Allemagne. C'est peut-être aussi dû au traumatisme post-colonial, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, l'Allemagne avait encore des colonies en Afrique, au Togo et au Cameroun, et en Namibie. Et donc après cette longue absence, l'Allemagne se tourne de nouveau vers l'Afrique parce qu'elle mène une politique de combat ou de contrôle, de maîtrise, je ne sais pas comment dire, flirte aux armes de Kempf, on dit en allemand, donc une politique de maîtrise des flux migratoires. Ça veut dire qu'elle cherche à combattre les origines qui poussent les gens à partir, et ça veut dire qu'elle veut s'engager davantage sur le continent africain dans une politique de développement durable. Et donc la part du budget allemand qui est consacrée à la politique de développement va maintenant passer à 0,7% du PNB allemand. Donc c'est un chiffre qui est revendiqué par l'ONU. Très longtemps.
Concernant la politique intérieure allemande, on lit, on entend souvent que le temps des années simples, des années faciles serait terminé pour l'Allemagne. On a vu aussi la difficulté des partis traditionnels, la CDU, vis-à-vis de leurs électeurs. Est-ce qu'on risque pas un petit peu le blocage politique dans les mois à venir avec ce nouveau gouvernement ?
Alors dans les mois, non. Je pense que la coalition va tenir, peut-être même pendant 4 ans, parce qu'elle elle peut s'appuyer sur un contrat de coalition qui a été âprement négocié et qui reflète les grands équilibres entre la CDU et le SPD. En revanche, on aura probablement, on n'en sait rien, mais tous les signaux vont dans ce sens-là, à faire au dernier mandat d'Angela Merkel. Donc forcément, après 16 ans, un nouveau chapitre s'ouvre, se pose des questions qui sont liées à la succession. Donc la CDU sera dans une situation sans doute assez complexe de trouver un successeur à Madame Merkel pour les élections de 2021. À cela s'ajoute la montée en puissance de l'AFD, on n'en sait rien, mais jusqu'où on va, on ne sait pas aujourd'hui où ils en seront dans 4 ans, mais la tendance est quand même vers une progression de ce parti qui est dans les sondages aujourd'hui autour de 14 voire 15%, en même temps que se poursuit la descente dans les sondages du SPD qui est tombé à 16%, donc qui est maintenant vraiment à un point près de l'AFD, ce qui est évidemment une catastrophe politique et morale à bien des égards pour le SPD. Donc on ne peut pas exclure, pour faire bref, que dans 4 ans, notamment dans les prochaines élections, que les difficultés que nous avons connues fin 17, début 18 pour former une coalition seront encore plus fortes. Mais j'ose espérer que d'ici là, l'Allemagne va pouvoir être gouvernée tranquillement.
Hans Stark, spécialiste de l'Allemagne, professeur de civilisation allemande et secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Pour en savoir davantage sur ce sujet, je vous renvoie à la revue Allemagne d'aujourd'hui, les élections fédérales du 24 septembre 2017. Un dossier de près de 200 pages co-signé par plusieurs universitaires et dirigé par Hans Stark et Jérôme Vaillant. Vous retrouvez un lien vers cette revue sur le site de la Deutsche Welle.
Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit.
De l'Allemagne, on part en Israël. Sur place, près de 40 000 migrants africains clandestins ont encore quelques jours pour faire leur valise. Des Érythréens et des Soudanais en majorité qui doivent quitter le pays avant le 1er avril. sous peine simplement d'être mis en prison, décision gouvernementale. Un choix difficile à faire pour ces hommes et ces femmes concentrés dans les quartiers sud de la ville de Tel Aviv. Une zone minée par la pauvreté et la délinquance où les migrants se sont entassés au fil de leurs arrivées depuis 12 ans. Et jusqu'à la fermeture de la frontière israélo-égyptienne, c'était en 2013. Pour eux, l'intégration est difficile sans aide publique. Elle est supportée essentiellement par la société civile et des ONG. Une partie de la classe politique accuse aussi les réfugiés d'être responsables de la délinquance qui augmente. Alors sur place, on oscille entre envie de rester et résignation à faire ses bagages ces jours-ci. Reportage à Neve Shanan, au sud de Tel Aviv, d'Hélène Machlin.
Dans ce quartier, les Israéliens se font rares. La plupart des passants sont africains. Le paysage urbain est composé de gargotes, magasins, immeubles délabrés aux façades grises. Selon les chiffres officiels de la police israélienne, la délinquance y serait en hausse de 53% depuis ces 6 dernières années. On entre dans un immeuble qui tombe en ruine pour trouver le centre communautaire des femmes érythréennes. Ce soir a lieu la cérémonie du café. Hélène, la fondatrice du centre, vit en Israël depuis 10 ans.
Nous avons fondé le centre en 2011 car beaucoup de femmes étaient dans des camps de torture. Et lorsqu'elles arrivent en Israël, elles n'ont aucune information sur les lieux où elles peuvent aller pour recevoir de l'aide. En ce moment, nous avons plusieurs activités ici, des cours d'hébreu, d'anglais, d'informatique, des formations sur le développement des enfants, le planning familial, des cours de coiffure, de business. Et nous aidons les femmes à remplir les formulaires de demande d'asile pour le Canada. Elles travaillent dur et les enfants ne reçoivent pas assez d'attention. Les mères célibataires se partagent la garde des enfants afin d'économiser de l'argent. Honnêtement, ça n'est pas un bon mode de vie, c'est vraiment très difficile. La plupart des femmes érythréennes font des ménages pour diverses compagnies. On ne reçoit aucun service public de la part du gouvernement, rien, rien du tout. Je ne sais pas pourquoi ils prennent les taxes gouvernementales sur nos salaires, c'est juste pour rendre la vie des réfugiés misérable, c'est la seule raison.
Samedi, jour de congé hebdomadaire en Israël, au parc Levinsky, face à la gare centrale, les promeneurs sont nombreux, tous érythréens. L'abri anti-bombe du parc a été recyclé en bibliothèque. Deux jeunes Israéliens enseignent l'hébreu à des hommes africains studieux. Johnny nous explique qu'il est devenu le porte-parole de sa communauté. Il prône un retour vers son pays dans un futur proche.
Je viens leur dire qu'il ne faut pas penser à partir au Canada. Beaucoup de gens de mon peuple partent vers d'autres pays. Mais il faut qu'on retourne en Érythrée et qu'on fasse tomber le régime actuel. Être réfugié dans un pays qui n'est pas le sien, c'est une souffrance de tous les jours. Le pire, c'est d'être sans tes parents, sans ton pays.
Les clandestins se construisent une vie au sud de Tel Aviv, font des enfants qui vont dans les écoles du quartier et ne parlent parfois que l'hébreu. Johnny a créé une école maternelle en tigrinya, la langue nationale érythréenne.
Pourquoi j'ai créé cette école? Ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup d'employés, ça coûte cher. Mais même si c'est une petite école avec 50 enfants, c'est énorme. Je transmets notre langue à la prochaine génération pour que les enfants de mon peuple soient préparés à rentrer un jour au pays sans être trop déboussolés. Ma communauté est calme, ce sont des gens bien. Une multitude de magasins et de restaurants érythréens ont ouvert. Avant, c'était dégoûtant ici, il n'y avait rien. Maintenant, regarde, c'est plein de vie.
L'avenir des demandeurs d'asile subsahariens reste plus que jamais incertain en Israël. Et même si la plupart ne veulent pas y rester, c'est toujours mieux qu'un départ vers la guerre et les massacres.
Hélène Machlin de la ville de Tel Aviv en Israël pour la Deutsche Welle. Vous retrouvez ce reportage sur notre site dans la médiathèque. Émission complète et ancien numéro à retrouver au même endroit car on arrive déjà à la fin de ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au professeur Hans Stark d'avoir accepté notre invitation et à tous ceux dont vous avez entendu les témoignages dans ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Le Touzé. D'ici là, vous retrouvez l'actualité allemande au quotidien sur notre site. On se quitte sur une chanson d'un autre groupe de musique allemand très connu et très engagé politiquement, dit Totenhosen, les culottes mortes, avec Willkommen in Deutschland, bienvenue en Allemagne. Je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien, à très bientôt, bis bald, tschüss.
Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Es ist auch mein Zuhause, selbst wenn's ein Zufall ist. Und irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch aus einem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann. Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen. Auch mein Land. Und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist auch dein Land. Und du bist schuldig, wenn du deine Augen davor schließt. Gehen, um der ganzen Welt, um sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation, sie gilt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann, dieses Problem zu lösen.